Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenue à tous, c'est la belle histoire de France, chapitre par chapitre, avec Franck Ferrand, Marc Menon, qui nous font vivre l'histoire de France chaque semaine. Et aujourd'hui, chapitre 60, intitulé « La guerre bascule ». Alors, dans cette émission, nous verrons comment s'organisent et comment s'unissent les réseaux de la résistance. On verra le célèbre duel Giraud-De Gaulle, on verra le naufrage de Vichy, on va vivre toute cette période. C'est parti. Ravi de vous retrouver, messieurs. Marc Menon, bonjour.
Bonjour.
Et Franck Ferrand, bonjour.
Bonjour Christine.
Alors la semaine dernière, mon cher Franck, je commence avec vous. Nous avons vu l'opération des troupes alliées et notamment le débarquement en Afrique du Nord. L'opération Torche, exactement. Vous avez une bonne mémoire.
Oui, mais vaut mieux. Si je n'ai pas une bonne mémoire, il faut que je change de métier. Non,
c'est parce que vous prenez une lumière, il a besoin d'une torche.
Oh là là, messieurs, commence bien. Donc là, on entre quand même dans la deuxième partie de la guerre.
Ah oui, oui, c'est vraiment une bascule. On peut dire que ce qui s'est passé au début de novembre 1942, ce débarquement des Alliés en Afrique du Nord va tout changer. Ça va tout changer d'abord parce que ça va offrir à la France libre, à tous ceux qui se battent contre le régime de Vichy en France, même s'ils sont à l'étranger, bien sûr, même s'ils ont quitté le territoire métropolitain, ça va leur offrir une tête de pont. C'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir s'installer tout près de la métropole, là, de l'autre côté de la Méditerranée, à Alger. On va en parler tout à l'heure, on va développer cet aspect.
Et c'est vrai qu'on avait vu à quel point ce qui se passait hors de l'Hexagone était capital pour renforcer la France.
Et rappelez-vous, c'était l'idée initiale du général de Gaulle. Dès l'appel du 18 juin, il explique bien qu'on a perdu la bataille sur le territoire métropolitain, mais qu'on n'a pas perdu la guerre qui, elle, va se jouer à l'échelle mondiale. Ce que des gens comme Pétain et ceux qui les entourent n'ont pas compris ou en tout cas ne veulent pas comprendre. Alors, ça a eu, pour le régime de Vichy, des conséquences incroyables, ce débarquement anglo-américain. C'est-à-dire qu'on a vu la zone libre envahie immédiatement par les Allemands. Là, Hitler n'a pas attendu du tout, hein, il est descendu. Comme les Allemands se rapprochaient dangereusement des côtes de la Méditerranée, à Toulon, l'amiral de Laborde, qui commandait la flotte, a appliqué les ordres qui lui avaient été donnés, enfin qui avaient été donnés aux personnes remplissant ses fonctions dès juin 1940. Est-ce que le chef du gouvernement de l'époque, c'est-à-dire Pierre Laval, aurait été d'accord avec ça? Il y aurait beaucoup à raconter sur le sujet. Toujours est-il que la flotte française se saborde pour que les Allemands n'en prennent pas possession. Il n'y a plus d'armée d'armistice, c'est terminé, ça devient maintenant, c'est renvoyé aux orties cette affaire. En quelque sorte, il n'y a plus de souveraineté nationale et l'Empire, tous les territoires qui, à travers le globe, qui sur l'ensemble du globe sont encore des territoires français, vont basculer cette fois du côté de la France libre. Donc pour Vichy, c'est la fin d'une certaine manière. Et évidemment, vous imaginez bien que pour ceux qui, sur le territoire même, c'est-à-dire tous les résistants qui se battent, qui se développent, qui organisent leur réseau, etc., enfin, ce qu'on voit, c'est poindre le bout du tunnel, c'est poindre la lumière dans l'obscurité. On s'approche de la libération. En tout cas, on peut désormais l'espérer de façon raisonnable.
Alors, on voit l'introduction, on a planté le décor et on va commencer avec la guerre de l'ombre. Marc Menon, face à l'occupation en France, les réseaux de résistance s'unissent. Comment s'est dégoulée cette unification et qui en est à l'origine? Et est-ce que l'unification s'est faite sans encombre?
Oh là là, que non! Vous savez, dans des périodes comme celle-là, ceux qui s'affirment, ce sont des gens qui ont du caractère, des personnalités. Ils ont obligatoirement aussi une sorte d'intuition sur la stratégie à adopter, comment mener ce combat d'autant plus exigeant et risqué qu'il ne peut apparaître à l'ordre du jour, enfin au grand jour. Il faut donc tisser dans la clandestinité, les moyens de contact, c'est d'une complexité invraisemblable. Donc des gens extrêmement intelligents, des gens qui ont du courage, des gens qui savent mobiliser. Mais quand ils se retrouvent ensemble, d'abord, ils ne savent pas éventuellement qu'X ou Y à tel endroit a mené sa propre opération.
Mais c'est ça.
Alors, lorsque le général de Gaulle comprend, parce que quand on a réussi à instaurer un petit groupe, la première chose, c'est de se précipiter pour rencontrer les généraux et dire « Voilà, mon général, on est à votre service. » Enfin, pour certains, parce qu'il y a aussi des groupes de résistance qui ne veulent pas le reconnaître. Pour lui, c'est presque le traître parce qu'il est à l'étranger. Les autres, plus subtils, se disent « Cet homme-là peut nous aider à avoir des finances. Donc, il est incontournable. » Et puis, pour, malgré cet égo démesuré de beaucoup, pour certains, il est une évidence. Il faut une unification. Et de Gaulle va la confier, cette unification, à un personnage que l'on a évoqué la semaine dernière, qui était le préfet de Chartres, cet homme qui a montré dès les premiers jours un courage inouï face aux Allemands, qui est tabassé et qui néanmoins reste sur ses positions. Jean Moulin a réussi à fabriquer des faits papiers. Il a eu le visa, tout un détour. Il arrive à Londres. Le général est conquis et le général finit par lui dire « Eh bien voilà, maintenant il est temps. Il est temps de fonder le Conseil national de la résistance, que l'on appellera le CNR. » Alors, forcément, il est touché, Moulin, puis il y croit. Mais quand il revient en France, après un parachutage, tout ça est très compliqué. Il lui faut faire savoir aux uns et aux autres qu'il serait bon de se retrouver pour voir comment coordonner les actions. Parce que sinon, de plus, vous menez un minage à un endroit donné, vous faites des explosions, des attentats, vous créez des troubles qui peuvent nuire à vos concurrents. Enfin, ben oui, parce qu'il y a un système de concurrence. Alors, il est déterminé qu'on se retrouvera le 27 mai 1943 dans une rue, moi je trouve ça sinistre, la rue du Four. Et là, ils sont ensemble, les uns et les autres. Et en particulier, vous avez Jean Moulin, ceux qui sont venus à reculons, et parmi eux, un homme, là encore, qui sort de l'ordinaire, qui s'appelle Pierre Brossolette. Alors, Brossolette, c'est un socialiste. Moulin, on le sent plus conservateur, d'une certaine façon. Moulin, il est vraiment dans... Voilà, voilà Pierre Brossolette. Un garçon étonnant, un garçon d'une intelligence. Mais alors, d'une indocilité invraisemblable. Il n'agit qu'en fonction de ce qu'il a tramé. Et pour autant, et c'est là où on peut reprendre ce mot « intelligence », c'est ça l'unification. Pourquoi elle peut se faire? Parce qu'ils comprennent tous qu'il faut écraser ces tripes qui sont celles qui vous happent pour la décision solitaire. Et là, ils acceptent de mettre en place ce CNR qui sera déterminant. Et puis, on repart ici et là. Ça n'exclut pas des rivalités. C'est-à-dire qu'on a beau adhérer au principe général, dans le quotidien...
Et surtout que ce sont des rebelles, déjà.
Oui, voilà, mais vous avez tout compris. Et ça sera comme ça jusqu'au bout. Et n'oubliez pas qu'il y a les communistes aussi. C'est-à-dire des antagonismes qui sont beaucoup plus profonds. Là, c'est l'intérêt national, la cause supérieure qui les unifie. Mais au fond, on n'attend pas la même sortie du tunnel. On voit un monde nouveau, meilleur, sous d'autres auspices, selon son intime conviction. Alors tout cela n'est pas facile. Les arrestations, parce qu'il y a aussi les têtes. Vous avez ceux qui s'infiltrent et qui n'hésitent pas à donner l'information. Ceux qui sont arrêtés et qui malheureusement n'ont pas les nerfs nécessaires. Là, je parle des gens de la clandestinité qui sont dans l'audace, mais qui n'ont pas toujours les tripes nécessaires pour connaître face à l'occupant qui, lui, utilise les méthodes les plus barbares. On est capable des pires sévices pour faire parler. Et en cascade, vous avez des arrestations. Il y a un homme qui est important, c'est le général de Lestrin. Alors là encore, beaucoup adhèrent, beaucoup le suivent, mais bon, il y a les frissons. Et le général de Lestrin est arrêté. Et ça, eh bien, ça montre que si lui est touché, il y a une sorte de gangrène qui s'est faite et dans les informations, d'autres têtes vont tomber. Et celui qui le sent le premier, c'est Moulin. il écrit au général de Gaulle « Je suis repéré ». À un moment ou à un autre, ça s'arrêtera. Il faut même penser à ma succession. Mais dans un premier temps, la succession qui importe, c'est celle de Delestraint. Alors, on se retrouve dans le sud de la France. Et là, on est avec Jean Moulin.
À Lyon, en fait.
À Lyon. Non, mais c'est la réunion de Valluire dont je veux parler.
Galluire,
où on se retrouve.
C'est à côté de Lyon,
voilà,
oui, dans le lieu de Lyon.
Voilà, en fait. Voilà. Et chez un docteur... L'ensemble des résistants est là, plus un personnage qui n'aurait pas dû se trouver sur place. Et c'est très bizarre, parce que juste avant l'arrestation de Delestraint, il avait été fait prisonnier par les Allemands. Il a subi des séances de torture et comme par hasard, il s'appelle René Hardy. Paf, il est libéré. Mais il dit « Moi, je n'ai pas parlé, j'ai réussi à les duper. » Et alors qu'il n'est pas invité à cette réunion, eh bien, il se présente. Et c'est le plus étonnant, c'est qu'on peut penser, vu les précautions prises par les uns et les autres, qu'on échappera au pire, malheureusement. Eh bien, soudain, les portes claquent et il se retrouve dans un coup de filet. Là encore, Hardy échappera aux poursuites. Il y a une suspicion légitime par rapport à ça. Mais les historiens discutent encore aujourd'hui. Qui a été le traître ? Moulin se retrouvera déféré en prison. On ne connaît pas, parce que là, on est vraiment dans l'horreur de l'horreur. Il passe d'une cage à une autre. On ne peut même pas appeler ça des cellules. Il subit les pires atrocités. On a grappillé quelques éléments d'information sur les cris qu'il poussait pour échapper à ce désir du soulagement qui est la traîtrise, donner des noms. Et apparemment, il a tenu jusqu'au bout. Mais malheureusement, ce courage lui est fatal. Brossolette continue la lutte. Alors, il est à la fois sur le territoire, il essaie de coordonner, il rencontre le général de Gaulle, va, vient, et il revient un an plus tard, pratiquement, en France. Et il sent que là encore, il est temps de filocher. Avec trois compagnons, il est dans une voiture et du côté d'Audierne, paf! On les arrête. Mais on tient. Bien évidemment. Ben non. Moi, je suis professeur dans un collège. Vous pensez bien que je ne m'adonnerai pas à quelques actions de terrorisme. Sauf que, là encore, la traîtrise, une femme le dénonce. Et il va subir ces abominations.
Où, à Paris, lui, cette fois.
Voilà. Alors d'abord, c'est en province. Et puis, il est conduit avenue Foch. Et avenue Foch, après une séance, on le laisse isolé dans une sorte de chambre de bonne. Il a les mains nouées par les menottes. Il est là dans les souffrances. Il a tenu, il a lâché un seul nom, un nom, le sien. Mais il sait qu'il ne pourra pas tenir plus longtemps. Alors, il se déhanche, arrive jusqu'à la fenêtre, se retourne, et hop, il l'ouvre, on est au quatrième étage, il saute, il se fracasse jusqu'au bout. Il a été digne de la résistance, cette résistance qui, grâce à tous ces personnages, finira par faciliter le travail des Alliés.
Merci beaucoup, mon cher Marc, pour cette page sombre de la guerre de l'ombre. On va passer à autre chose, un duel. Un duel qui a marqué l'histoire et un duel qui aurait peut-être pu changer le cours des choses. On en parle tout de suite. Franck, c'est un duel dont on parle peu, en fait, parce qu'il a pourtant eu son influence. On va s'arrêter quelques instants sur le duel entre le général de Gaulle et le général Giraud. Et en quoi ce duel aurait pu changer le cours de l'histoire ?
C'est une confrontation. Vous savez, le général de Gaulle, sur son chemin, a croisé un certain nombre de concurrents potentiels. Le premier, d'ailleurs, ça n'était pas le général Giraud, c'était l'amiral Darlan. Très important, François Darlan, qui a été un des plus hauts dignitaires du régime de Vichy, qui dirigeait la flotte, qui a été extrêmement proche du maréchal Pétain et qui, finalement, arrive en Afrique du Nord. On ne sait même pas trop bien exactement pourquoi y faire.
Mais c'est ça qui est étonnant.
À l'automne 1942, et...
j'allais dire, les circonstances font qu'il est là au moment du débarquement de ce qu'on appelle de cette opération torche, n'est-ce pas, du débarquement des Alliés en Afrique du Nord. Il est là, il est à Alger. Or, tout de suite, les Américains vont en faire le haut commissaire de l'Afrique française. C'est-à-dire que c'est à lui qu'on fait confiance. Parce qu'il est une haute personnalité, parce qu'il a des liens dans tous les gouvernements, parce qu'il représente en quelque sorte une forme de la légitimité française. C'est cet amiral Darlan qui est en train de devenir l'interlocuteur privilégié des Alliés en général et tout particulièrement des Américains. Il y a quelqu'un à qui ça ne fait pas plaisir du tout, ça. Inutile de vous dire, c'est celui qui, lui, est à Londres pendant que l'autre est à Alger et qui s'appelle De Gaulle, bien sûr.
Et n'oublions pas quand même, c'est le rejet total, pour ne pas parler de la haine des autorités américaine, en particulier du président Roosevelt.
Oui, bien sûr. Donc, je croyais que vous vouliez ajouter un élément sur l'amiral Darlan. Mais non, cet amiral Darlan est en train de jouer un jeu qui stupéfie les observateurs, bien entendu. Or, il y a un deuxième très haut militaire, général qui vient d'arriver. C'est effectivement quelqu'un qui s'est évadé d'Allemagne, qui est passé par Vichy au passage, qui se trouve, qui est en train de se rapprocher de l'Afrique du Nord et qui est le général Giraud. Et ce général Giraud, il reçoit le titre donné par les Alliés, hein, de chef des forces armées françaises. Il est là au moment où l'amiral Darlan va être assassiné, parce que ça paraît incroyable, mais la veille de Noël de cette année 1942, alors donc que l'Afrique du Nord est en train de devenir française, la veille de Noël, il y a un autre personnage très important qui est le général Giraud. Lui, il s'est évadé d'Allemagne, il est d'ailleurs passé par Vichy, on l'a vu se rapprocher de l'Afrique du Nord. Et lui, il va être nommé chef des forces armées françaises. Donc, vous voyez que on est en train, quand on parlait de bascule tout à l'heure, vous voyez à quel point la légitimité est en train de changer de camp. C'est-à-dire que l'amiral Darlan, qui était un haut dignitaire de Vichy, se met maintenant à discuter avec les Alliés en Afrique du Nord. Le général Giraud est le chef des... Et pendant ce temps-là, le général de Gaulle, toujours un peu sur la touche dans cette affaire, vous comprenez bien.
Mais pas sur le terrain, là où ça se passe, on va dire.
Or, il se trouve que la veille de Noël, la veille de Noël de cette année 1942, un jeune militant royaliste, il est proche de Dastier de la Vigerie, on sait qu'il a des liens avec le comte de Paris, il faudrait entrer, j'ai fait plusieurs émissions là-dessus parce que c'est passionnant, il faudrait entrer dans tout le détail de cette affaire. Le gamin s'appelle Bonnier de la Chapelle, ce Bonnier de la Chapelle va s'approcher comme il peut de l'amiral Darlan, et donc, on est à la veille de Noël, il tue l'amiral Darlan. Assassinat, vous imaginez? Déjà, il y avait un premier retournement, une espèce de coup de théâtre incroyable en voyant Darlan qui arrivait en Afrique du Nord. On se demandait un peu ce qu'il venait faire. Il est investi par les Alliés de très hautes responsabilités et le voilà assassiné par un jeune militant dont on sait qu'il n'était pas si éloigné que ça des milieux gaullistes. Je n'ai pas dit du général de Gaulle lui-même. Il faut faire très attention quand on parle de ces sujets. Vous avez remarqué que je marche un peu sur des œufs là, mais parce que ce sont des sujets extrêmement encore chauds, si l'on peut dire, très délicats. Et il y a beaucoup de gens dont la susceptibilité est très vite touchée dès qu'on change un mot ou une virgule.
Alors là, on a pris toutes nos précautions.
Donc on a pris les précautions. Mais je n'ai pas
vous
dit
vous
que...
Vous imaginez, au-delà de son talent, pourquoi il fait carrière.
Je n'ai pas dit que le général de Gaulle avait fait tuer Darlan. Mais ce qui est certain, c'est que Bonnier de la Chapelle, qui proche de Dastier de la Vigerie a tué Darlan, avait dans les poches de l'argent qui venait de milieux gaullistes et qui prouve que les milieux gaullistes, qui trouvaient très injuste que leur général, que leur champion soit écarté de cette affaire, ne sont sûrement pas entièrement étrangers à ce qui s'est passé à cette Noël 1942 à Alger. En attendant, que font les Américains? Ça paraît incroyable. Le président Roosevelt... Il faut savoir par qui est conseillé le président Roosevelt. Ça aussi, ça nous entraînerait loin. Il faut voir qui est autour du bureau ovale à la Maison-Blanche. Mais enfin, bref, le président Roosevelt ne veut entendre parler que de personnes différentes du général de Gaulle. Il n'a pas confiance dans le général de Gaulle.
Pour lui, c'est un dictateur
en puissance.
Voilà.
Et donc, le vieux président Roosevelt, qui est très malade, et d'ailleurs, il ne va pas vivre encore bien longtemps. Vous savez, il va mourir dans moins de 2 ans. Le président Roosevelt... va instituer le général Giraud haut commissaire en remplacement de l'amiral Darlan. Dit comme ça, tout ça peut paraître un peu complexe, mais vous voyez qu'on est dans une situation. Et qu'est-ce qu'on fait en janvier 43? On réunit à Casablanca, au Maroc, puisque les alliés ont débarqué non seulement en Algérie, mais on ne l'a peut-être pas suffisamment dit, au Maroc également, c'est très important. Ils tiennent le détroit de Gibraltar, hein, c'est très important. Eh bien, on va réunir à Casablanca ben, les deux personnages, Giraud, soutenu par les Américains, et De Gaulle, dont on doit pouvoir dire quand même, allez, il faut faire un petit coup de chapeau à notre Churchill habituel, on doit pouvoir dire que De Gaulle est plutôt soutenu par Churchill. En gros, les Anglais en pince pour De Gaulle et les Américains pour Giraud. Mais les deux personnages sont là, j'allais dire, en même temps, ensemble, et c'est le général Giraud qui va tirer son épingle du jeu et qui va se trouver investi à l'issue de la conférence de Casablanca.
Quel retournement, c'est incroyable.
Sauf que De Gaulle, évidemment, est implanté. Que De Gaulle est à Londres depuis longtemps, oui. qu'il connaît intimement le gouvernement britannique, qu'il connaît intimement les différents gouvernements, et surtout qu'il a eu le temps de négocier avec tous les partis politiques, les anciens partis d'avant la guerre. Il a rencontré beaucoup d'hommes politiques. Il est soutenu officiellement par Léon Blum, dont on a parlé il y a deux ou trois émissions, pour vous donner un exemple. Il y en aurait beaucoup d'autres à citer. Bref, le général De Gaulle a une assise qui est très loin d'avoir le général Giraud. Certains, mais ce sont des mauvaises langues, disent qu'il a aussi une intelligence que n'avait peut-être pas tout à fait, entièrement en tout cas, au même niveau, le général Giraud. Toujours est-il que De Gaulle, très intelligemment, va s'appuyer sur le Comité français de la Libération nationale. Alors, vous avez CFLN. Ce comité, ce CFLN qui se trouve à Alger. La France libre est toujours pour l'instant basée à Londres, hein, bien sûr. Mais ce CFLN qui va être une espèce de petit parlement qui dispose d'une forme de souveraineté et qui notamment dispose de la souveraineté sur tous les territoires français
qui a été
extérieur,
hein,
le fameux empire. Eh oui. Donc, à partir de là, le général va s'appuyer sur Mendès France, sur le Troquet, sur Jacques Minot, sur toutes ces sommités qui sont dans ce petit parlement qu'on appelle le Comité français de la Libération nationale, le SFLN. Et à partir de là, De Gaulle va, en quelque sorte, prendre sa revanche sur Giraud et va même, dans la réalité, l'écraser. Ce qui veut dire que, maintenant, le général De Gaulle, main dans la main avec Churchill, même s'ils n'arrêtent pas de s'engueuler tous les deux. Bon, c'est comme une espèce de vieux couple qui ne s'entend pas, mais en même temps, ils se soutiennent. Bon.
Ne me regardez pas quand vous dites ça.
Non, mais c'est un peu
nos histoires, on raconte.
C'est un peu nous parfois. C'est un peu nous parfois. Le général.
Rappelons que ce sont les meilleurs amis du monde.
Le général De Gaulle, soutenu par les Anglais, Churchill. Qui dispose maintenant de son instance représentative CFML. Et bientôt d'un gouvernement provisoire à Alger, qui dispose de l'ensemble de l'Empire français, toutes les territoires coloniaux, en tout cas ce qu'on a pu sauver, parce que par exemple en Indochine, les Japonais sont en train de tailler des croupières. Entrer dans tous les détails. Mais De Gaulle...
C'est une guerre mondiale.
C'est une guerre mondiale. De Gaulle est en train de prendre l'ascendant. Ce qui est extraordinaire, c'est regarder ce qui se passait au début avec la haute figure du maréchal Pétain, vainqueur de Verdun, qui était la légitimité, et en face, ce petit général tout seul à Londres. Enfin, ce petit de grande taille, mais ce général tout seul à Londres qui avait du... Eh bien, les choses se sont peu à peu inversées. Et l'on peut dire qu'à partir de la fin de l'année 1943, le général De Gaulle domine entièrement tout ce qui peut représenter l'idée de résistance en France. Mais attention, il y a ce dont nous parlait Marc à l'instant. On aurait presque dû faire les chroniques à l'envers, d'ailleurs, pour expliquer ce qui se passe. C'est que le général De Gaulle dispose de tout ça, mais ce qu'il n'a pas pour l'instant, c'est la haute main sur la résistance intérieure. Or, ces résistants des réseaux de l'ombre sur le territoire même de la France, ils sont fondamentaux. Et c'est pour les unifier et les mettre sous son commandement que le général De Gaulle va avoir besoin d'hommes aussi remarquables que Moulin, Brossolette et d'autres, bien sûr.
Merci beaucoup, messieurs, pour cette toute première partie. C'est marrant, on voit comment, effectivement, l'histoire des années plus tard n'est pas une science exacte. Et que, non, mais je veux que les précautions que vous avez prises, chacun, comment tout est toujours délicat des années plus tard. Très intéressant. Dans un instant, messieurs, on va évoquer les artistes pendant l'occupation. Ils ont joué un rôle important, vous allez nous en parler. L'organisation du nazisme en France avec le rôle de la milice. On parlera du débarquement en Sicile et la célèbre bataille de Monte Cassino. Et puis, enfin, on va tenter de faire un bilan de l'occupation en France. On se retrouve dans un instant. La guerre bascule, deuxième partie, chapitre 60, avec Franck Ferrand, Marc Menant. Dans cette deuxième partie, on verra les artistes pendant l'occupation. On parlera du naufrage de Vichy, on parlera de la campagne oubliée. On va faire un petit point, un bilan de cette période de l'occupation avec vous, messieurs. Alors d'abord, une question pour vous deux. Pendant cette période de l'occupation, quid des artistes ?
Ah.
Ils avaient un rôle quand même particulier.
Mais non, mais il y a un point quand même, parce qu'on va pas, on pourrait faire le procès des artistes pour ceux qui restent sur place en disant « Ah, quelle aubaine, ils s'enrichissent et ils jouent pour qui avant tout ? Pour les Allemands, les collabos. » Mais tout à chacun, Brosselette, il est prof de collège. C'est-à-dire que...
La vie continue.
La vie...
Oui, vous nous avez bien dit ça la semaine dernière, à quel point, effectivement, il y a une partie qui est en guerre, et puis une autre partie qui continue sa vie.
Non, mais vous êtes obligé, en plus, d'avoir un rôle social. De quoi voulez-vous vivre ?
C'est ça.
C'est-à-dire que votre quotidien, vous avez une famille. Ah ben, je suis dans la résistance. D'accord, mais je mange quoi, moi ? Et les gamins et autres. Donc, la vie sociale, malgré toute la paupérisation de l'ensemble des éléments dont on a besoin au quotidien, eh bien, ça existe. D'où le marché noir, etc., etc. Alors, les artistes, c'est pareil. Et on leur propose des contrats. Les Américains proposent certains contrats, comme Arletty, par exemple. Arletty reste en France. Elle se sent française. Mais elle ne reste pas en France pour collaborer. Néanmoins, on est toujours dans cette logique de « comment je vis ?». Et quand les Allemands lui font une première proposition d'aller tourner, elle dit « il n'est pas question que je tourne avec les Allemands ». Voilà, la continentale. C'est-à-dire que les Allemands veulent exploiter les Français pour sertir leur image, pour montrer qu'eux aussi sont capables de faire en sorte que la culture française dans son rayonnement international continue et que ce sont donc pas des censeurs.
On a Coco Chanel, on a...
Jean Gabin,
On ne peut pas tout mélanger, justement.
Voilà.
Je pense qu'il faut remettre... Marc nous parle d'Arletty parce que, évidemment, elle est magnifiquement interprétée en ce moment par Élodie Menant, par sa fille, qui nous montre toute la gouaille, toute la force et tout le pouvoir de sympathie d'Arletty. Et c'est un personnage sympathique de l'occupation. Il y en a de moins sympathiques, il y en a aussi de beaucoup plus remarquables.
Et qui tombe amoureuse, et c'est ce qu'on lui reprochera. Parce que ça aussi,
Arletty,
c'est difficile.
Oui, elle est tombée amoureuse
d'un Allemand. Oui, mais vous avez tous ces soldats allemands qui sont sur le territoire français, beaucoup de jeunes femmes dont les maris sont prisonniers de guerre, dont les couples ont été déstructurés par la guerre.
Ils peuvent rester amoureuses quand même, même si le mari n'est pas là. Qu'est-ce que
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'est passé, il y a eu énormément de ces aventures entre des Françaises et des Allemands. Il y en a énormément. Et ça, d'ailleurs, c'est une question un peu tabou, il faut bien le dire, mais qui a eu un rôle absolument essentiel à la libération. On en parlera la fois prochaine. Pour ce qui est des artistes, vous avez plusieurs catégories, si je puis dire, exactement comme dans la population française. Vous avez une énorme majorité qui sont attentistes comme le reste des Français. Je pense à un personnage comme Sacha Guitry. On ne peut pas dire de près ou de loin que Sacha Guitry soit collaborateur ou collaborationniste. Simplement, Sacha Guitry, c'est le roi de Paris, il continue à jouer, etc. Il est proche du maréchal Pétain. Il va même faire un livre qui s'appelle « De Jeanne d'Arc à Philippe Pétain ». Ça lui sera beaucoup reproché, mais globalement, il est...
Mais il n'est pas pro-allemand,
c'est ça ? Non, pas du tout, pas du tout. Bon.
C'est là où il y a une différence. Cette césure, elle est essentielle.
Après, vous avez ceux qui vont vraiment dans la résistance. Il y a Jean Gabin, dont Marc a cité le nom, évidemment. Alors lui, il sera carrément dans son char avec la deuxième DB au moment de la libération. Hein. Il y a une très, très grande comédienne magnifique qui a montré le chemin, si je puis dire. C'est Françoise Rosay qui a emmené, si je puis dire, les artistes avec elle en Amérique. Bon, voilà, ça, ce sont vraiment ceux...
Restons deux secondes sur Saint-Exupéry, pour bien comprendre. Saint-Exupéry rejette complètement De Gaulle. Pour lui, De Gaulle, c'est un planqué. C'est presque un personnage qui refuse l'héroïsme. Ben, si en matière d'héroïsme, les gens de l'aéropostale ne sont pas des références. Et pour autant, ben, il ne sait pas trop comment mener la lutte. Alors, il tente des contacts avec le gouvernement américain qui est un peu long à véritablement soutenir, je dirais, l'ensemble des forces alliées.
Et puis après, vous avez, hélas, un certain nombre d'artistes qui ont collaboré. Ça, c'est incontestable.
Des noms.
Non, mais il y a des gens qui, notamment, ont fait le fameux voyage à Berlin. Alors, est-ce qu'ils se sont laissés piéger par la politesse des autorités d'occupation ou est-ce qu'ils ont essayé d'arranger leur carrière et leur fin de mois ? Tout ça est très complexe.
Ils reflétaient un peu aussi la société française. Oui. Comme vous l'avez dit, attentistes, des résistants.
Il y a les gens dont l'attitude, genre Fernandel ou Maurice Chevalier, etc. On ne peut pas juger les gens après coup. comme un fin dans l'attitude est quand même très discutable. Puis vous avez carrément ceux, malheureusement, par exemple, Édith Piaf, là, très difficile de la défendre. Il y a même encore pire que ça. Vous avez des figures, et j'avais fait une émission là-dessus qui s'appelait L'ombre d'un doute. À l'époque, on avait parlé de ces artistes sous l'occupation. Il y a une figure, malheureusement, il faut le dire, parce que je dis malheureusement, c'est une des plus grandes figures du XXe siècle en France. C'est la reine de la mode, c'est une très grande dame. Mais enfin, il n'empêche que Coco Chanel a été terrible dans cette histoire et qu'elle a utilisé la guerre pour récupérer des actifs qui appartenaient à son associé juif, par exemple. Bon, voilà. Donc, il y a eu toutes les attitudes. De la pire à la meilleure,
tout a existé. De la belle Joséphine Baker, un petit mot rapide.
Alors, Joséphine Baker, elle, c'est l'incarnation de la résistance. Oh. Elle vient chanter pour les soldats français. Elle est d'ailleurs en Afrique du Nord. C'est vrai que le général de Gaulle va lui donner sa propre décoration. Enfin, là,
bon. Et n'oubliez pas, elle prend le risque de passer devant les troupes allemandes quand il y a des contrôles et elle a à l'intérieur, dans des partitions, des ordres codés.
Au tout début, oui.
C'est vraiment une femme admirable, Joséphine Baker.
Courageuse. Merci pour cette page avec les artistes pendant l'occupation. Maintenant, le naufrage de Vichy. Alors, Franck, ça va être votre récit aujourd'hui dans cette émission, puisque nous avons parlé la dernière fois du régime de Vichy. Nous en avons bien planté le décor. Après, comment ce régime peut-il survivre à l'invasion de la zone libre ?
Je vous ai dit, la flotte, c'est s'aborder. Je pense qu'on doit pouvoir dire que Pétain a trouvé ça bien et Laval n'a pas trouvé ça bien. Peu importe ce qu'on pense à Vichy, de toute façon, l'amiral de Laborde a pris ses responsabilités et il a envoyé les navires français par le fond pour que les Allemands ne puissent pas les récupérer. Très bien. Il n'y a plus d'armée d'armistice. Il n'y a plus de contrôle des colonies. Qu'est-ce qui reste à Vichy ? Il n'y a même pas de territoire libre puisque les Allemands ont envahi la zone libre. Là encore, il faut faire très attention à tout ce qu'on dit, mais on aurait peut-être pu comprendre le régime de Vichy quand il s'agissait de régénérer les choses, de faire la révolution nationale en 40, 41 et début de 42. Mais après l'invasion par les Allemands en 42, on se demande ce que fait ce régime. Et d'ailleurs, on va voir petit à petit ce régime tomber dans le collaborationnisme le plus
abject, disons-le. Toutes les mesures anti-juives.
Avec, en janvier 43, la fondation de la milice, et le président Laval est d'accord avec cette fondation, vous imaginez, la milice qui va créer une sorte de Gestapo française, c'est effroyable.
30 000 membres.
Et alors là, pour le coup, vous avez remarqué qu'on a été mesuré, modéré, je
oui,
pense.
Mais non.
Enfin, là, il
n'y
a pas à être modéré avec ces gens-là. Là, c'est
non, puis il y a vraiment des ordures, des personnages qui sont capables, mais qui sont d'anciens, plus ou moins bandits, qui se recyclent dans cette collaboration pour s'enrichir en commettant.
Atroce. Bon, vous avez. Et d'ailleurs, il y a aussi. Marc avait fait un très beau roman là-dessus. Il y a aussi des gens qui, sous couvert de résistance, en font autant. Parce que tout existe. C'est ça qui est fascinant dans ces périodes très complexes. Il y a, dans la foulée de la milice en février, l'instauration du STO, le service du travail obligatoire. Ça, c'est fondamental. Ça veut dire qu'on demande aux jeunes Français. Je ne veux pas qu'on leur demande. On réquisitionne les jeunes Français pour aller les faire travailler en Allemagne, au service de l'Allemagne. Mmh. Vous imaginez bien que dans les familles, c'est le scandale. Et il y a beaucoup de ces jeunes gens qui déjà aimaient bien De Gaulle et Londres, et qui là se disent « mais c'est l'occasion jamais », et qui vont aller grossir les maquis. C'est à ce moment-là que la révolution explose. La résistance, j'allais dire, explose. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est une main-d'œuvre considérable qui arrive dans les maquis pour la résistance, le STO.
Et je pense que c'était... Je piétine un peu vos propos, mais n'oublions pas ce que subissent les Juifs. C'est-à-dire qu'on aura imposé cette étoile. Ce sont des gens qui sont chassés de chez eux. Ce sont des gens qui ne peuvent vivre dans aucune tranquillité.
Mais maintenant, les Allemands sont en zone libre, donc il n'y a plus de lieu de tranquillité.
Et leurs voisins qui leur disent bonjour sont peut-être en train de les dénoncer. Vous imaginez au quotidien, vous ne pouvez regarder personne. Tout regard qui vous est adressé, c'est peut-être un regard pour vous désigner, un signe de tête, et vous avez quatre gars qui vous tombent dessus et qui vous engouffrent dans une traction et vous terminez à la Gestapo. Et puis, les grandes rafles, la rafle du Veldiv, enfin, c'est une épouvante totale qu'il faut avoir imprégnée en nous.
bien sûr. Et n'oubliez pas que les premières lois juives, hein, c'est dès octobre, anti-juives, bien sûr, hein, c'est dès octobre 1940. Hein, on a attaqué tout de suite. Il ne faudrait pas croire qu'on dit parfois qu'il y a eu une dérive du régime de Vichy. Non, non, le régime de Vichy. Bon. Alors, il y a cette grande polémique qui a littéralement fait florès pendant la campagne présidentielle, là, sur le sort des juifs français ou des juifs étrangers. On ne va pas entrer dans cette grande polémique, mais c'est vrai qu'il y a une différence dans le traitement. Il y a au fond un régime qui reste un régime antisémite incontestablement. Et puis,
rien n'est épargné, même les gamins. Et là, il faut lire le sac de billes, entre autres.
Oui, oui. Et au début de l'année suivante, en début 1944, alors là, on se dit, mais ce régime, alors, vraiment, déjà, il n'y avait plus rien à tirer de Vichy. C'était devenu une loque sordide. Mais là, maintenant, on a carrément des gens comme Joseph Darnand. Joseph Darnand, c'est le chef de la milice. Hein, comme Philippe Henriot. Philippe Henriot, c'est un personnage terrible qui passe son temps devant les micros de radio. C'est une espèce de grand orateur avec un verbe très enflammé qui constamment tape sur les francs-maçons, sur les juifs, sur les communistes, sur les crypto-communistes, sur les Anglais et les Américains, bien entendu. Pour lui, tout ça est à mettre dans le même sac. Marcel Déat également, un ancien socialiste qui lui a fait un chemin complètement dément puisqu'il est devenu carrément pro-nazi, pro-hitlérien. Carrément, lui. Personnages, tous ces gens-là rentrent au gouvernement. Et à la fin, vous savez que les Allemands vont prendre possession, si je puis dire, de cette espèce de momie vivante qui est devenue le maréchal Pétain pour l'envoyer à Belfort dans un premier temps, puis à Sigmar Ingen, et il ne rentrera via la Suisse que pour être jugé le maréchal Pétain. Mais ça, ce sera après la guerre. On en dira bien sûr un mot au moment de l'émission sur la libération. Un mot peut-être, c'est Jean Sévilla qui fait remarquer ça dans sa très belle histoire passionnée de la France. Jean Sévilla qui nous dit qu'il ne faut jamais oublier que le maréchal Pétain était né en 1856. C'est-à-dire qu'il avait 14 ans.
Âges,
qu'il avait, il avait 14 ans en 1870. Il avait 60 ans au moment de Verdun. C'était un vieillard qui avait fait l'essentiel de sa vie au 19e siècle. Un homme du 19e siècle qui n'avait jamais compris les choses élémentaires comme ce qu'est le totalitarisme, par exemple. Il était encore dans l'idée, lui, de Guillaume II et de Bismarck, si vous voulez, quand il parlait des Allemands. Il n'avait pas pris la mesure, en quelque sorte, de ce que devait être ce régime nazi avec lequel on ne peut pas transiger. Or, lui n'a cessé de vouloir transiger. C'est moi que l'histoire jugera, disait-il. Eh bien, l'histoire a jugé le maréchal Pétain, bien entendu. À partir de novembre 1942, le régime de Vichy s'enfonce dans quelque chose qui devient littéralement sordide.
Merci pour cette page sordide. Hein. D'ailleurs, on va parler maintenant d'une petite campagne oubliée et vous allez nous dire pourquoi. Donc là, on va s'arrêter quelques instants sur deux moments marquants de cette période de guerre, à savoir le débarquement des Alliés en Sicile, 9 juillet 1943, ainsi que la bataille de Monte Cassino.
Sicile et dans la foulée en Corse. N'oublions jamais, et je pense que tous nos compatriotes corses seront heureux qu'on le dise, qu'en septembre-octobre 1943, c'est la libération de la Corse, premier département français au pluriel qui vont être libérés. Je dis au pluriel, à l'époque, je crois que ce n'était qu'un département.
Alors, le grand patron de l'opération, c'est le général Alexander. C'est un Américain. On a sur le terrain le général Patton, là encore. On est vraiment avec des personnages qui, dans la vie de tous les jours, ne pourraient pas tenir de telles fonctions. C'est parce qu'on est dans l'extrême de l'extrême. Là, il faut déployer des ressources inhabituelles qu'ils peuvent s'imposer. Patton, c'est celui qui est capable de galvaniser des deux hommes avec une forme de vulgarité, c'est-à-dire qu'il dit « Vous n'êtes pas là pour mourir pour votre pays, vous êtes là pour faire mourir ces salauds qui, eux, meurent pour leur pays. » Vous voyez comment il essaie de donner quelque chose de très charnel, de très direct. On n'est pas dans l'abstraction philosophique. Il y a des ordures en face, il faut les descendre, les gars. Et il a cette fraternité de la troupe, on tape dans le dos, mais il est capable aussi de gifler deux soldats simplement parce qu'ils sont en dépression.
Avec ce pistolet à crosse d'argent.
Voilà.
Mais il y a des généraux français en dessous, bien sûr. Hein.
Bien évidemment. Et alors, je vais le citer. Restons avec Montgomery, qui est son équivalent anglais. Et puis, il y a un général français, qui est le général Juin. Un général qui va jouer un rôle déterminant dans la deuxième partie de l'opération, c'est-à-dire quand on va débattre débarquer en Italie.
Et la fois prochaine, on parlera du général Leclerc, bien sûr, absolument essentiel.
Ah, bien sûr. Ah, non, bah, ça, le général chapitre Leclerc, la libération. Avec son petit bâton, etc. Alors, sa baguette. Alors, le général Juin va jouer un rôle déterminant au Mont Cassin. Là, je le dis en français. Reste que pour pouvoir envahir la Sicile, c'est extrêmement compliqué. Pour ceux qui, entre nous, ont déjà été en Sicile. C'est un peu comme la Corse, hein. Ce sont des territoires de l'aridité. Il y a de la roche partout, c'est caillouteux, vous avez le maquis. Comment déboucher là-dedans avec des chars? Si vous arrivez près des côtes, soit il y a trop d'eau, soit au contraire, il y a des récifs. Et comment arriver à vous infiltrer avec vos engins de débarquement, vos chaloupes? Tout cela, c'est extrêmement risqué. Les morts, il y en aura des centaines. Ceux qui sont en place, il est vrai, et c'est la chance des alliés, c'est qu'ils ne disposent pas de forces extrêmement vigoureuses, un peu des dépenaillés. Et ça, ça va aider. Et également, il y a un élément déterminant. A priori, on peut se dire, mais décidément, les dieux ne sont pas avec nous, c'est le temps. Le jour où le débarquement est déclenché, la tempête emporte la Sicile, des vents époustouflants. Alors vous savez,
les avions.
Non, pas les avions, les monoplans, les planeurs, oui, les planeurs, dans lesquels les uns et les autres ont pris place pour pouvoir ensuite mieux s'infiltrer, ah oui. Parce qu'avec un planeur, vous posez comme vous. Bon, eh bien, ces planeurs sont emportés, tout est dispersé, et ça sera une chance extraordinaire, parce que dans ce monde où il n'y a que des recoins, eh bien, cet éparpillement va permettre de gagner, après des combats invraisemblables, de gagner la Sicile. Et puis ensuite, on passe de l'autre côté.
Et puis de la Corse, on se dit qu'on va un jour débarquer en Provence. Ce sera le 15 août 1944. Il faut encore un peu de temps, là, bien sûr.
Et puis, il y a l'Italie, donc, cette bataille du Monte Cassino.
Oui, alors la campagne d'Italie...
Alors là, c'est l'enfer. Là.
Ah oui, la campagne d'Italie était d'une violence inouïe. Hein. N'oubliez pas que les Allemands s'étaient installés devant devant les insuffisances de Mussolini, Hitler n'y était pas allé par quatre chemins. Et donc, on va se battre contre les Allemands en Italie. Et la bataille du Monte Cassino est une chose...
Épouvantable. Alors, d'abord, tout est favorable aux Allemands et aux Italiens. C'est-à-dire que vous avez un monticule de 560 mètres de haut, au sommet, le monastère, avec donc un lieu de repli, et vous dominez tous ceux qui sont autour. Et c'est central. C'est-à-dire que si on laisse... Les Allemands et les Italiens à cet endroit-là, on ne peut pas filer par Rome. Regardez cette image. Voilà ce qui restera de Monte Cassino. Après 4 semaines d'une bataille atroce où ça dégringole de partout, plus de 3000 bombardiers alliés. Et ça aussi, c'est une chance. C'est-à-dire que dans l'éparpillement des forces, l'Allemagne n'a pas suffisamment d'avions pour lutter contre ça. Mais quand vous êtes au sol, vous pouvez avoir les avions, ils visent tout le monde. Donc, comment arriver à maintenir une stratégie? Et c'est là que le général Juin a une audace incroyable. Il dit à Patton, il dit à Montgomery, il ne faut plus qu'on soit dans le frontal. Il y a un endroit qui est complètement imprenable. Eh bien, c'est là qu'il faut y aller. Et avec ces gars qui viennent de partout, vous savez, c'est cette France de l'outre-monde, ils vont réussir à s'infiltrer. Il ne restera rien, mais les premiers sur place, ce sont les Polonais. Les Polonais, ils n'ont même pas leur drapeau. Ils ont perdu les trois quarts de leurs troupes. Il leur reste juste un fanion d'un régiment et ils le montent tout doucement au sommet du monastère. Enfin, la porte de Rome est ouverte.
Merci beaucoup pour ce récit. La semaine prochaine, on parlera de la libération, évidemment. Juste un mot, peut-être.
Il y a juste un petit mot bilan. Pour faire plaisir à Marc, puisqu'il nous parlait tout à l'heure du grand Saint-Ex, de notre cher Antoine de Saint-Exupéry. Il va bientôt débarquer, enfin s'installer en Corse, vous savez, et faire partie d'un bataillon américain. Et on sait ce que son Lightning, évidemment.
Voilà. Et n'oublions pas qu'il a écrit Le Petit Prince à New York.
bilan de ces 4 années d'occupation, en un mot.
Ah, j'aurais beaucoup à dire, mais...
Un mot pour concentrer un peu tout ce qu'on a
courage,
dit.
Courage, audace, ne jamais plier, ne jamais se dire c'est perdu. Quoi qu'on subisse, il faut rester droit. Et puis tant pis, si le sort paraît contraire, on se redresse, on repart. Même démietté, si je puis dire, avec un bras de main, on continue.
Il y a aussi une question de centre de gravité qui bouge, qui évolue. Le centre de gravité, il est évidemment en juillet, août 40, il est à Vichy. Hein. Et puis petit à petit, on va le voir partir vers Londres. De Londres, il descend vers Dakar, puis Brazzaville. Puis on le voit remonter, si je puis dire, vers l'Afrique du Nord, reprendre le chemin de l'Italie, passer par la Corse. Et puis ce sera enfin la libération. On parlera la fois prochaine de, notamment du chemin du général Leclerc, hein, bien sûr, avec sa deuxième DB et le serment de Koufras. Enfin, on vous racontera tout ça.
On va faire une petite fiche de révision pour
résumer
cette émission.
La bonne élève qu'il est.
Absolument, toujours 20 sur 20. Le basculement de novembre 1942 donne du cœur aux résistants qui, dans le sillage de Jean Moulin, cherchent à s'unir. Contre le général Giraud, évadé d'Allemagne et défendu par les Américains, le général de Gaulle s'impose. Le CFNL voit le jour. À Vichy, des personnalités pro-allemandes et même pro-nazis font leur entrée dans un gouvernement de plus en plus fantoche. Et puis, dernier point, de plus en plus de Français libres s'engagent aux côtés des alliés dans les combats qui préludent à la libération. Deux livres pour terminer. L'armée des ombres.
L'armée des ombres, Joseph Kessel. Bah, en plus, vous voyez, ça c'est du caractère, Kessel.
Oh. Oh, vous aimez beaucoup, hein. Je le citais souvent.
Ah oui, 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 oui. C'est immense, c'est quasiment indépassable, on peut le dire. Hein.
Et vous, mon cher.
N'oublions pas que Kessel, avec son neveu Maurice Druon, vont écrire Le Chant des Partisans.
Le Chant des Partisans à Londres.
Oh. On aurait dû mettre la petite musique.
Oui, tiens, on se la mettra la semaine prochaine.
Fois, avec
oui.
plaisir.
C'est pas très joyeux, mais
non,
c'est très grand,
mais ça,
et
ça
magnifique.
Ça a marqué la France. Michel Cointet,
qui a écrit, entre autres, il y a plusieurs ouvrages sur cette affaire, mais elle a écrit le De Gaulle-Giraud, l'affrontement, c'est aux éditions Perrin, et c'est sur toutes les longues tractations entre ces deux hommes, et surtout entre ces deux camps, dont je n'ai fait tout à l'heure qu'un résumé très superficiel, disons-le.
Merci en tout cas, on sent qu'on va vers la libération et la semaine prochaine, le chapitre La Libération, enfin. Merci Franck Ferrand, merci Marc Menant, à la semaine prochaine.